Donc Rosemarie Toubin, pédopsychiatre en périnatalité à Montpellier, où vous avez pris la suite de Françoise Molena, qui est également présente dans la salle, après avoir travaillé 20 ans avec elle. Et vous êtes également formatrice et responsable d'un DU de périnatalité. Et vous êtes venue avec Ludovic, un papa, qui témoignera de l'importance du dialogue avec les professionnels.
Bon, bonjour à tous et à toutes. Alors, j'espère qu'en 45 minutes, on va essayer de tenir notre temps. On a un petit film de 24 minutes que je vais introduire un petit peu quand même pour parler, vous parler un peu de ce qui s'est continué à Montpellier, où j'ai eu beaucoup de chance, en effet, de prendre la suite de Françoise Molena et de Joël Roy. Joël Roy qui était pédopsychiatre, qui nous a quittés cette année et qui a beaucoup défriché tout ce qui était des relations entre les professionnels quand il y avait des complexités très importantes. Voilà, puis je voulais dire aussi merci à la FNSCP et Aire de Famille, et notamment Sylvie Chemin, voilà, puisque c'est à son initiative que je suis là aujourd'hui pour une deuxième fois, et surtout pour beaucoup m'enrichir de toutes ces réflexions dans le décloisonnement des pratiques. Voilà. Moi, je suis pédopsychiatre en maternité, je travaille essentiellement vraiment jusqu'aux 3 mois de vie du bébé, avec des professionnels pendant la grossesse, ensuite de couche, voilà. Mais bien sûr, dans l'optique de pédopsychiatre, de prévenir des troubles du neurodéveloppement. Et qui sait combien c'est compliqué de faire de la prévention sans prendre le risque d'une stigmatisation et de faire peur aux parents dont on aurait très envie de les aider. Alors juste pour vous dire et rappeler quand même que le bébé se développe dans l'utérus, qui est dans l'abdomen de la femme en 2023, qu'on n'a encore pas de bébé qui se développe à l'extérieur, même ici il paraît qu'il y a beaucoup de laboratoires qui cherchent à ce qu'un utérus puisse fonctionner à l'extérieur d'un être humain. En tout cas en 2023 c'est encore comme ça, et que le suivi obstétrical a comme principal objectif la santé de la mère et du fœtus. Tout ce qu'on fait quand on va chercher le père pendant la grossesse n'est pas financé. Il n'a pas d'étiquette. Et nous, si on passe une heure avec un papa fragile, fragilisé par l'état de sa femme, fragilisé par sa propre histoire, ou par un événement obstétrical antérieur, on ne peut compter aucune activité. Ce qui pénalise quand même beaucoup nos directeurs pour prendre en compte cet aspect-là. Et donc, vraiment, aller chercher le père, cet état de fait, c'est vraiment prendre conscience que la place du père nécessite pour tout professionnel de la grossesse, sage-femme, obstétricien, médecin généraliste, un mouvement actif, pour le moment bénévole. J'insiste un peu là-dessus parce que ce n'est pas du tout coté. Je pense qu'il y aurait une réflexion, je ne sais pas s'il y a encore des gens dans nos administrations politiques à penser un petit peu ce travail. Parce qu'une fois que le bébé est né, qu'il y a des éducateurs, tout ça, déjà c'est plus financé de prendre en compte, quoique les soins conjoints par enfant sont très récents, puisque vous savez qu'il y a des décrets qui posent la psychiatrie périnatale et qu'on essaie de se battre pour faire des soins conjoints avec des financements pour le travail qu'on fait auprès de la mère, du père et des bébés. Et donc, pourtant, ce que nous, on vit à Montpellier maintenant depuis une trentaine d'années, c'est qu'aller chercher le père dans la grossesse, c'est un levier pour harmoniser le développement du bébé, autant de la plasticité cérébrale, et on va parler de cette plasticité cérébrale. Voilà, donc on a entendu ce matin, je vais pas revenir, hein, les 1000 premiers jours, voilà. C'est de la période anténatale aux 2 ans, d'accord, avec, c'est vraiment le temps majeur où va se passer la plasticité cérébrale, même si c'est toute notre vie, hein, que notre cerveau va s'adapter et vraiment mobiliser des choses pour s'adapter à notre environnement. Mais dans ce moment-là, le bébé, non seulement il a une croissance importante de tous les neurones, mais surtout il est dans une dépendance extrême à l'autre. Un bébé sans un être humain qui s'en occupe va décéder extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que nombreux des mammifères. Et donc, et puis juste remarquer qu'il passe ce bébé de 9 mois où il a été dans un milieu aquatique à 37 degrés en apesanteur, à un milieu aérien à 19 degrés et qui va subir les effets de la gravité. Donc ça, c'est vraiment des choses que les soins de développement chez les grands prématurés nous ont beaucoup appris. Mais pour ce qui est du nouveau-né à terme, on est encore beaucoup dans des balbutiements. Et quand les parents, moi, me sont adressés hein, par sage-femme, médecin généraliste, obstétricien, Il m'interroge essentiellement sur les parents qui vont devenir autour de ce bébé vulnérable par les médicaments, par les conditions de la grossesse, par la complexité de leur situation, par leur parcours chaotique, mais à aucun moment va se poser la question de cette adaptation du bébé in utero au bébé ex utero. Et donc, que leur répondre sur ce devenir parent ? Parce qu'avant que moi j'aille parler de ça, bien sûr, je vais prendre leur fil. Et donc, je leur réponds qu'on se trouve à Montpellier devant un paradoxe et que les enfants des parents pouvant bénéficier de ce qu'on a appelé un accompagnement personnalisé en réseau coordonné, comme va en témoigner le film, eh bien, ces enfants, à 5 ans, vont mieux que ceux de la population sans facteur de risque. Donc, ça nous a beaucoup interrogés. On a mené 2 études, l'une sur le devenir à 5 ans des enfants de mères toxicomanes et l'autre sur le devenir à 5 ans de mères avec une psychopathologie prenant des médicaments. Donc, je leur dis, ben voilà où on en est. On ne comprend pas tout à fait pourquoi, mais voilà ce qu'on peut vous dire de nos études. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est beaucoup d'espoir. C'est-à-dire que parce qu'il y a de l'adversité, parce qu'il y a une médicalisation, parce qu'il y a un collectif humain, et qu'on peut organiser tout d'un coup, sur un temps circonscrit, c'est vrai, de la grossesse et de l'accouchement, qui est plus circonscrit que tout ce temps que vous avez, vous, après, sur le devenir jusqu'à 18 ans de l'enfant, eh bien, il y a des choses qui se passent, beaucoup de sécurité. Et d'autant, je leur dis que devenir parent ne s'apprend pas. C'est souvent des parents qui ont eu des trajectoires très malmenées dans leurs apprentissages à l'école, avec beaucoup d'humiliation, on en a entendu parler ce matin. Et que là, je leur dis, ben, ça tombe bien parce que vous n'allez rien apprendre. Juste, ça s'expérimente. Et je ne peux même pas vous y entraîner, parce que pour s'y expérimenter, il faut que vous ayez les hormones qui vont venir de façon massive juste après l'accouchement. Parce que beaucoup de couples ont peur de la chute hormonale qui est liée à l'accouchement, mais peu savent qu'il y a d'autres hormones qui les remplacent. Et donc, cette imprégnation hormonale, je leur dis, ça va permettre à la mère et à l'adulte en présence quotidienne, c'est pour ça qu'on s'est battu pour ce congé paternité d'un mois, pas pour qu'il soit distillé sur la première année, mais qu'il soit là dans le premier mois de vie du bébé, et bien que cette imprégnation va permettre que l'être humain ne fasse pas d'efforts pour s'habituer et pour répondre aux besoins de dépendance extrême du bébé. Il va même être enthousiaste d'avoir ce bébé qui l'est dans les bras, qui se réveille, et que s'il dort 2 heures sans demander l'adulte, il va s'ennuyer de ce bébé en sécurité. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut dire aux parents, et ils ont un regard très étonné de se dire « Ah, je ne vais pas passer le bac, quoi. Je ne vais pas passer un examen. » Alors que dans la tête des parents, c'est beaucoup devenir parent. C'est « je vais avoir combien ? 12 sur 20 ? 20 ? Je vais pouvoir passer voilà. » Vous savez que maintenant, avec les plateformes, tout ça, pour trouver, je veux dire, il y a une sorte dans un collectif et une angoisse sur être admis à quelque chose. Et donc, voilà. Donc et puis je leur dis, en effet, le bébé, il est dans une dépendance extrême. Et je définis la dépendance physique, le porter, sensoriel, avoir chaud, affectif, qu'on le regarde, qu'on soit en échange. Je dis que le visage du bébé, il cherche l'adulte, que son première nourriture, ça va être d'essayer de communiquer avec eux dès la naissance. Et donc, je leur dis, ces hormones vont faciliter votre sommeil, parce que le sommeil va être très entrecoupé, mais on se réveille, on se rendort très facilement grâce à ces hormones. Et puis surtout, l'émergence de sentiments envers ce petit être si dépendant. Et qu'à ce moment-là, ceux qui ont eu des histoires malmenées, chaotiques, qui ont peur de l'émergence des sentiments, il faut qu'ils aient un collectif, presque une néo-famille. On a entendu ce matin tous ces témoignages des éducateurs qui vont être là, parce qu'on ne peut pas devenir parent seul sans le regard d'autres adultes. Ce n'est pas le seul regard du bébé qui nous fait devenir parent. Voilà. Et donc, si on parle de cette niche sensorielle du bébé, on va surtout parler cet après-midi, notamment dans le film, vous allez voir, de la niche sensorielle des parents, que le cloisonnement de nos institutions et le climat social prend trop peu en compte. Les centres parentaux ou les dispositifs d'appui parental ont comme objectif de veiller à cette niche sensorielle. La parentalité n'est pas le résultat d'un apprentissage réussi, mais vraiment des liens humains qui sont organisés pour les parents, pour que les parents puissent réaménager leur façon de gérer leur angoisse. Cette maman ce matin qui disait, ils m'ont appris, je suis moins impulsive. Mais bien sûr, ses cartes mémoire, de par son histoire, ont généré cette impulsivité dont elle ne sait pas quoi faire. Et tout d'un coup, alors être impulsif avec un bébé, c'est quand même compliqué. Donc il y a une urgence. et très tôt. Parce que cette impulsivité, c'est au stade très précoce, dans la première année de vie, qu'elle va causer le plus de dégâts. Donc c'est là qu'il faut qu'on soit tous sur le pont. Et donc, va permettre vraiment de gérer cette angoisse et ce sentiment de relation dépendante. Tout d'un coup, ils se sont beaucoup organisés, ses parents, en étant indépendants de tous les liens humains. Et tout d'un coup, là, ils se réapprivoisent et que de devenir dépendants, ils y goûtent, ils ont du plaisir. Et c'est comme ça que leur santé mentale va pouvoir se réorganiser. Et donc, beaucoup d'émotions dans le suivi obstétrical, vous êtes bien d'accord, hein, le diagnostic anténatal, les échographies. Donc, dans ce moment-là, il y a tellement d'émotions, on a tellement peur, on est tellement rassuré. C'est vraiment l'occasion, la grossesse, de vraiment réorganiser ces cartes mémoire. Et puis, en salle d'accouchement, en salle de naissance, là, personne ne peut dire comment un accouchement va se passer, combien de temps va durer le travail, est-ce que la maman va saigner après. Et les professionnels sont dans une relation d'altérité qui va vraiment leur permettre d'être très dans le moment présent et de participer à cette niche sensorielle avec les parents. Donc, plasticité cérébrale et dépendance à autrui, hein, une chance ou un risque. On va essayer de se questionner là-dessus, parce que quand même, quand on est dépendant, c'est aussi prendre un risque s'il n'y a personne autour de soi. Est-ce que l'environnement sensoriel et le développement du bébé va permettre qu'on puisse penser ensemble les ingrédients d'un développement harmonieux, et puis surtout s'intéresser, en regardant ce film, sur les effets des liens interprofessionnels, sur la mobilisation psychique des parents au temps de la plasticité cérébrale. Et je reprendrai un petit peu ce qu'a dit M. Houzel ce matin, hein, que ce témoignage, c'est presque une réverbération des vécus avec un collectif de professionnels qui s'est entraîné, parce qu'il faut beaucoup s'entraîner pour pouvoir travailler et répondre à ces besoins des parents, hein. Elle n'est plus là. Voilà. Voilà, d'accord. La prochaine. Et je voulais mettre un petit focus sur cette période très sensible, qui est le quatrième trimestre de grossesse. Voilà. Il y a Ingrid Bayo, une sage-femme canadienne, qui a écrit ce livre. Hein, voilà. Et qu'il faut vraiment que nous, les parents, soient informés, les professionnels, de quoi est composé ce quatrième trimestre de grossesse, et aller chercher le père pour qu'il soit présent à ce moment-là. Si on ne va pas le chercher pendant la grossesse, il ne sera pas présent. Voilà. Donc, ce n'est pas simplement le congé paternité, mais ce qu'on l'invite à qu'est-ce qui va se passer dans ces 3 mois. La prochaine. Voilà. Donc, alors à Montpellier, 500 000 habitants pour 9 000 naissances. Voilà. On a monté un pôle de prévention en santé mentale sur la ville, avec des moyens autant dans les lieux publics que dans le lieu privé. On est 2 pédopsychiatres. Mon collègue Rafik Ojaïan prend le témoignage avec moi. Donc, moi, je suis sur une maternité type 3 où il y a 3800 naissances, puis 2 cliniques où il y a 6500 naissances. Voilà. Et on travaille beaucoup au niveau de la formation. Donc, dans notre l'association de formation de recherche sur l'enfance et l'environnement qui a été montée par Françoise Molena et Joël Roy. Et enfin, si vous voulez retrouver un petit peu, parce que je sais que vous attendiez un peu ce qu'on vous donne, tous les outils un peu de ce travail, des coulisses un peu du film, ben vous les retrouverez, prochain diapo, voilà, dans ce MOOC. Donc c'est des cours en ligne, et donc il y a Nathalie Léon qui est là, qui a été la coordinatrice de ce MOOC, qui a réussi l'exploit de faire travailler tous les pédopsychiatres en périnaté sur la France pour faire 3 modules. Et moi j'étais responsable du module 3 sur les outils interdisciplinaires. Voilà, vous pouvez vous y inscrire gratuitement. Prochaine diapo. Voilà, c'est des capsules vidéo de 10 minutes, voilà, et on a essentiellement transmis les outils interdisciplinaires pour construire la continuité anté-postnatale. Voilà.
Est-ce qu'il y a un lien ou une adresse ou...
Ah oui, vous tapez, hein, vous tapez MOOC santé mentale périnatale et vous pouvez vous inscrire là, voilà, après le film quand même, mais ne soyez pas trop pressés, mais voilà. Et il y a vraiment, vous pouvez accéder au module 1, 2, 3 de façon, comment dire, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'ordre, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder tout d'un coup, voilà. Et donc c'est des sages-femmes, des gynécos, des pédiatres, des pédopsychiatres, des psychiatres adultes, et pas simplement des spécialistes de la relation, voilà, qui vont parler des ingrédients un peu de cette prévention. Et dans le film, essentiellement, ce qui va être abordé, c'est vraiment la construction d'un projet de naissance personnalisé, orchestré par une sage-femme de coordination, et puis la consultation pédopsychiatrique, périnatale, posturage, que je vous laisse découvrir dans le film. Merci de votre attention.
j'étais sous traitement et avant grossesse hein, pour une angoisse très forte, enfin une angoisse. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai appris que j'étais enceinte, bêtement, je me suis dit, je le dis bien bêtement parce qu'en fait, bon, c'est vraiment ce que je pensais qui était bon. Je me suis dit, j'arrête mon traitement, je suis heureuse, je suis contente, c'est tout ce que j'ai toujours attendu avec l'homme que j'aime, donc que du bonheur. Et là, boum, banaboum, 3 mois après, ça a été un enfer ça a été un enfer un peu sur Terre parce que sans traitement et avec toute mon histoire derrière, bah, du coup, ça a été très très difficile pour tout le monde, pour mon conjoint, pour moi, pour aussi peut-être pour m'aider à notre amitié. Parce que du coup, je faisais que pleurer constamment. Et pas, c'était pas une. C'était aussi. Des angoisses, c'était aussi est-ce que je vais garder bébé, est-ce que c'était super dur de mais vraiment j'arrivais pas à remonter la tête dans un état de future maman qui ne savait pas si elle pouvait encore devenir future maman, qui était pas bien et qui disait finalement le seul avenir que je vais donner à mon futur enfant, c'est un futur chaotique parce que mon histoire à moi, elle est mise à part le fait qu'elle soit chaotique, c'est que j'avais pas de représentation non chaotique, donc je ne savais pas comment faire. Et là, j'ai eu des pistes qui parlent. J'ai même pas eu des pistes, j'ai eu tout simplement des conseils simples. Qu'est-ce qu'on peut donner à son enfant inconsciemment qui fait que son enfant devient malheureux? Et c'est ça m'ongulait du matin au soir. C'était surtout qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant. J'ai besoin d'être le plus honnête possible pour que ça soit le plus bénéfique possible pour moi, pour monsieur et pour mon enfant. Et bien, en fait, quand je suis arrivée justement aux urgences, là, du coup, j'étais aux urgences obstétriques. Et la personne de l'accueil, malheureusement, qui était pas enfin, formée, malheureusement, c'est toujours une question de formation. Quand je suis venue, j'étais à 5-6 mois de grossesse. Elle m'a dit, pourquoi vous venez? Je lui dis, bah, pour des angoisses. Et il y a un docteur, logiquement, elle me dit, mais il n'y a pas de rendez-vous aux urgences obstétriques. Je lui dis, oui, je suis totalement d'accord. Mais là, elle me dit, mais ça n'existe pas. Enfin, on ne vient pas pour des angoisses. On vient pour accoucher ou pour autre chose. Mais on ne vient pas pour des angoisses. Et on a un peu buté sur cette personne parce qu'en fait, bon, ça. J'étais encore. Je me suis dit, c'est pas possible. Je viens encore dire quelque chose. J'essaye de. Je leur dis, je leur partage. Pas que le fait de partager, c'est réellement dire des choses et on ne m'écoute pas. Quand j'étais suivie, quand j'ai été suivie en foyer, j'avais des psychologues. Ça faisait partie du cérémonial d'aller voir le psy une fois par mois, machin. Ça, j'avais l'habitude, je prêtais plus attention à ce genre de professionnel, parce que pour moi, c'était quelque chose de... Voilà, c'est un protocole, il y avait un enfant qui passait, puis l'autre deuxième, puis le troisième, enfin, c'était un peu tout ça. Et donc, du coup, j'avais pas vraiment plus confiance, et puis je me suis dit, finalement, il n'y a rien qui a évolué quand j'étais plus jeune, et encore aujourd'hui, et puis finalement, à 40 ans, la gamine de 15 ans, ben, à 40 ans, elle se retrouve elle se retrouve dans la même situation et c'est là où on se dit mais finalement il n'y a rien qui a évolué au niveau, au niveau psychiatrique, au niveau de prise en charge de la personne en soi, bah, au final c'est bien beau de nous dire qu'il y a plein de choses mais au final il n'y a rien parce qu'en fait non, personne n'est au courant comme cette jeune femme à l'accueil des urgences obstétriques. C'est fou, c'est juste de l'information, c'est de la formation, de l'information.
Qu'est-ce qu'on vous reproche, quoi. Ouais. On vous reproche d'être là, exactement. On vous reproche d'avoir arrêté le traitement, c'est une espèce d'infantilisation.
Totalement.
On vous reproche d'être mal. Alors ça n'a pas été évident sur le moment, mais déjà de le comprendre, déjà d'analyser ce qui se passait, de comprendre une réalité, c'est-à-dire que le besoin de traitement, est-ce que ce traitement est indispensable, est-ce qu'il n'est pas, est-ce qu'il fallait absolument qu'elle arrête son traitement par rapport à la grossesse, c'était les questions qui se posaient tout de suite, savoir s'il y avait des complications par rapport à bébé, s'il y avait des possibilités de que bébé en prenne finalement pendant la grossesse, qu'il y ait des risques, et du coup c'était un peu tout ce questionnement autour de ça. Et c'est vrai que ça procure un peu des difficultés dans le sens où on ne sait pas trop où on va en fait. Et par la suite, c'est vrai qu'on a appris que c'était pas forcément une bonne chose d'arrêter d'un seul coup, mais plutôt de tempérer, d'évoluer avec un traitement qui soit stable et mesuré. Et
on partageait mutuellement des choses parce qu'en fait, on trouvait pas de professionnel réellement qui comprenait réellement mes angoisses. Et du coup, parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était dû à l'arrêt du traitement.
D'accord.
Je ne savais absolument pas, j'étais pas consciente. Comme moi, mon corps, j'avais vraiment beaucoup de mal. Le fait d'être manipulé, touché, même par un professionnel, que ce soit femme ou homme, c'était pas peu important. Mmh. Et quand j'ai senti ses mains arriver vers moi, vers mon ventre, je me suis sentie mais complètement submergée, mais réellement. En plus, je ne savais même pas de quoi on parlait, l'autonomie. Je savais, j'avais lu dessus, mais je n'étais pas au courant de ce que ça faisait ce jour-là. Elle est venue vers moi, je ne savais même pas de quoi. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bébé, je sais pas. J'ai été prise d'angoisse, mais c'était plus possible. Ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on est rentré de cette séance, je ne voulais plus jamais sortir. Je me suis dit, on touche à mon corps sans mon accord encore une fois. C'était de la mauvaise communication qui a enflammé la chose. Le psychiatre interne qui m'a reçu m'a dit, mais quelle idée d'arrêter ces traitements. Mais moi, je n'étais pas consciente de ça. Mais du coup, je me suis dit, ah bon, c'est ça. Mais je n'avais pas fait de corrélation. Moi, j'avais fait juste une corrélation par rapport à mon histoire personnelle. Donc, rien à voir avec le... Bien entendu, il y a aussi l'histoire personnelle qui joue en compte. Mais l'arrêt du traitement avait fait quand même beaucoup. Totalement, c'était 24 heures de stress, d'angoisse.
Pour moi, c'était essentiel d'être présent et d'aider Leïla dans son évolution.
Ouais.
Pour moi, c'est instinctif. Ouais, de l'avoir toute seule une nuit à l'hôpital, c'est vrai que c'était un peu compliqué à gérer. Je n'étais pas rassuré pour elle, surtout, bébé aussi. Enfin, juste pour elle, parce que chez le bébé, ne craignait rien. Elle était vraiment... de bonnes conditions, enfin d'être en sécurité, mais c'était surtout pour les lives où j'avais plus d'appréhension.
Tout a changé avec Madame Avazi parce qu'en fait, elle m'a dit, voilà, on a une structure qui s'appelle le Petit Marceau, nous vous accompagnons des personnes, je travaille en collaboration avec le CHU, ah, vous êtes suivi où? Au CHU, ah, super, je vais pouvoir mettre je vais pouvoir rassembler tout ça ensemble. Mais ça, c'est un travail qui s'est fait entre vous tous. Je n'étais pas au courant de cette pépite, en fait. Je ne savais pas qu'il y avait un travail qui était fait en ligne, parce que moi, la représentation que j'en avais, c'était catastrophique. Mais en fait, ça existe, mais c'est pas connu. Mais même par les professionnels eux-mêmes. Elle m'avait dit, on a mis juste sage-femme, psychologue sur Internet, Montpellier. On lui laisse un message, cette personne nous rappelle. On a appelé des professionnels qui ne sont pas rappelés. Mais cette professionnelle nous rappelle et nous dit qu'elle va venir nous voir. Le grade.
Cette expérience de fiabilité, quelqu'un répond à votre message, non seulement il répond, mais entend que vous ne pouvez plus sortir chez vous et vient vous voir chez vous. Donc, vous appelez ça le grade, mais en même temps, ça veut dire que vous rencontrez là quelqu'un de fiable,
oui,
qui entend ce que vous dites et qui donne une réponse à votre difficulté. Ça vous a fait quoi à ce moment-là ?
Déjà, de la confiance. Après, on peut, à ce moment-là, on peut encore plus se donner soi-même et du coup, de discuter de soi. Mais pas que parce que du coup, on a grosse confiance dans le corps médical parce que j'avais plus. Quand j'ai rencontré le psychiatre, il me dit oui, quelle idée d'arrêter votre traitement, oui, et que je passe une nuit en psychiatrie et que le lendemain, je dois rentrer. J'ai rien réglé. J'ai strictement rien réglé. J'ai un bagage en plus à emmener et à amener et me dire, mon bagage psychique. Et en fait, il y a aussi une culpabilité parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai mon conjoint et que je me disais, le pauvre, il n'a pas mérité ça. Il ne demande rien et il est obligé. Il m'accompagne, mais aussi il me supporte parce que c'est quand même. C'était loin d'être simple.
Ça s'est organisé, que je puisse vous rencontrer. Puis vous avez rencontré une sage-femme de coordination,
Amélia
Sergi.
Exactement. Voilà,
sans que vous soyez obligé de faire la démarche de demander. C'est-à-dire que c'est les rendez-vous qui venaient vers vous.
cette personne qui est au milieu, qui crée, enfin, qui fait un relais entre les rendez-vous. Oui. Du coup, il y a une boucle qui se forme. Oui. Et du coup, il y a un travail. Je rencontrais autant de professionnels. On m'écoutait, on m'accompagnait. Il n'y avait pas que de l'écoute, il y a aussi de l'accompagnement. Le fait que, enfin voilà, on me dise, voilà, finalement, bébé va bien. On verra tout ça à la suite de l'accouchement. Mais c'est vous qui êtes important actuellement. Bébé va bien. Et ça, le fait qu'on me dise aussi, c'était important. Enfin, j'en ai pas conscience sur le moment, mais au final, si, parce que finalement, ben ouais, quand on reçoit aussi une femme enceinte, ben c'est la femme aussi qui est enceinte. Enfin, avant qu'il y ait le mot enceinte, il y a aussi femme.
Là, ça s'achève une fois par semaine, ça se passe très très bien. Mmh. Elle se sent quand même plus sécurisée. Mais ça n'empêche pas de consulter toujours de manière rapprochée. Elle se projette plus vers une césar programmée.
J'ai le droit d'être angoissée, ça peut aussi faire partie de mon histoire, mais ça fait aussi partie du fait de mon traitement. Mais du coup, ils ont remis en place aussi, le professionnel aussi a remis un traitement. Il y a eu aussi un échange. Et il y a aussi ça qui a fait que ça s'était totalement mieux passé, enfin, que je vivais différemment ma grossesse. Ma grossesse, elle n'était plus en angoisse, je la vivais totalement. C'était plus du tout la même chose.
C'était toujours avec lui. Hein.
Totalement. Ouais.
Ça l'a rassurée, ça l'a accompagnée, ça l'a soutenue. Ouais. Et je remercie cette professionnelle, en tout cas. Mmh.
Moi, je vous ai vu une première fois seule, puis après, je vous ai vu ensemble, voilà, dans une consultation.
Quand vous m'avez reçue, il y avait de la bienveillance de votre part, donc il y avait un accompagnement, il y avait madame aussi Sergi qui était en cohésion ce jour-là. Après cette première consultation, il y avait un côté rassurant. Au début c'était un peu difficile parce que la place du papa...
est inexistante, je trouve.
Ah ouais.
Inexistante.
Ah ouais.
C'était, je crois, la première avec un pharmacien qui m'a demandé comment j'allais. Mais il y a certains professionnels qui se permettent parfois de donner des diagnostics un petit peu avancés aussi, je trouve.
D'accord.
Et qui sont pas forcément dans leur... qui font pas partie forcément de leurs attributs. De poser un diagnostic mental sur les difficultés mentales que vous pouvez avoir sur le moment avec là. La finalité, dans ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste être attentif aussi sur la personne qui vous suit et sur la spécialité de cette personne, pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là. Et je trouve que c'est important de le dire et qu'il faut savoir aussi rester dans ses coups et à chacun de sa spécialité.
Vous posez toute la question de la confiance que ce professionnel peut faire aux autres, y compris psychiatre, de lui dans ce qu'il a pu voir. Intégrer la globalité justement du suivi, c'est pas simple parce que c'est rester dans son champ en faisant confiance aux autres. Mais de temps en temps, si on n'a pas confiance, on prend tous les champs. Et donc on peut faire des raccourcis qui en effet... On les fait là encore inverse de ce qu'on voit.
Il ne me connaît pas, il ne sait pas qui je suis, il ne connaît pas mon histoire, il ne sait pas comment je vis la chose, il ne m'a même pas posé la question, il ne sait pas. Donc comment est-ce qu'on peut prétendre un diagnostic sans savoir discuter avec la personne concernée?
Sur le sentiment d'estime de soi, et si on fait une injonction, ben on pense que l'autre ne sait pas, alors que si on parle de quoi,
en connaissance de cause,
personne. C'est vous qui pouvez faire le chemin et aller chercher, être acteur, y compris
c'est ça, tout à fait.
Être acteur, donc chercher l'aide dont vous avez besoin pour vous, pour votre enfant, pour accepter que votre... Il y a peut-être beaucoup de monde qui vient à la maison. Ben, c'est évident d'avoir du monde qui vient à la maison pour aider, hein, parce que souvent, le premier lieu de vie du bébé, c'est la maison. Donc il y a beaucoup de visites à domicile, de choses. C'est pas facile de sortir un bébé au début.
Et puis j'ai appris, surtout, alors ça a été le summum du summum quand on était avec eux. Chérie, c'était les positionnements. Alors là, j'ai dit, mais pourquoi pas reprendre la fac maintenant tout de suite? Parce que du coup, j'ai toujours envie de retourner en tant qu'étudiant, parce qu'on veut apprendre, on ne connaît pas les postures, on ne connaît pas tout ça.
Il y a toutes ces petites vidéos autour du développement précoce du bébé, la plasticité cérébrale, ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait sens pour
vous. Ah, mais totalement.
Anticiper
totalement.
Un petit peu ces étapes.
Mais parce qu'en fait, quand on a compris des choses.
C'était essentiel, je trouve. Essentiel dans le développement du bébé, de savoir comment... Enfin, je trouvais ça très intéressant, en tout cas, de voir que comment est-ce qu'on peut soulager, stimuler un bébé.
Nous-mêmes, sans d'être un professionnel. Donc, pouvoir passer... voilà, ce que j'appelle ça intrinsèque, au lieu de... Il y a des passeurs de savoir, et puis il y a des passeurs de connaissances et que du coup, on peut aussi, ça se donne à tout le monde. C'est bien beau de dire, faut pas crier, faut pas punir un enfant, mais c'est bien aussi de nous expliquer comment poser, se remettre sur son enfant, du coup le sentir, et puis du coup même nous calmer, ou si on prend le même rythme, tout ça c'est...
Mais faire ça, du bien au bébé, faire du bien aux parents en même temps.
Mais totalement, et au final, tout ça, c'est... On a l'impression que pour atteindre ça, il faut rencontrer des professionnels.
Et ce que vous dites, monsieur, c'est qu'en fait, en parlant de comment on va pouvoir mettre le bébé dans la situation la plus confortable pour lui, pour qu'il s'adapte à la vie extra-utérine, ça fait beaucoup de bien aux parents.
Je pense que ça fait du bien aux deux.
Et l'anticiper avec vous, vous savez ce que vous avez ressenti?
Le fait d'en avoir parlé, le fait de l'avoir abordé, de l'avoir pratiqué, montré, pratiqué, ouais. Vu, observé, et après le faire soi-même, ça permet de rééquilibrer un sens à ce triangle parent-enfant.
Ce lien entre l'enfant, mais le parent,
il a... Ouais. Ça passe.
Parce que dans ces dates, quand on parle d'adaptation justement du bébé à l'extra-utérine, je parle surtout comment vous allez être ses adaptateurs. Dans toutes ces postures, dans toute la façon dont vous allez être entre vous aussi. Oui. On a beaucoup parlé aussi de votre environnement, comment votre environnement personnel peut réagir à ces conseils simples qu'on va vous donner, mais qui des fois peuvent bouleverser beaucoup en environnement, parce qu'à leur génération, on a donné d'autres conseils.
On préfère avoir ces conseils que le packaging de voilà. Toujours.
Et donc, on a mis tout ça en place. Hein, vous étiez très ouvert. Voilà. Et puis, il y a eu cet appel, je ne sais plus si c'était un vendredi soir ou de vous, un peu paniqué. Voilà. En disant, mais Madame Toubin, c'est quoi tout ça? Suite à la rencontre en binôme avec la sage-femme de PMI et la cuillère de PMI.
On s'aperçoit qu'en fait, tout n'est pas clair. Tout n'est pas clair. La puéricultrice arrive entre-temps, elle se regarde, la puéricultrice qui n'était pas au courant du suivi, enfin du tout, ça, elle ne connaissait pas notre situation, elle ne savait pas où on en était. Et du coup, il y avait un espèce de cafouillage déjà entre elles. Elles n'étaient pas coordonnées déjà entre elles. Et du coup, nous, ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Elles se regardaient entre elles sans savoir ce qui se passait. Nous, on a vu des choses sur le fait du suivi bébé, puis le fait du placement aussi, si vraiment c'est quelque chose qui n'avait pas. Enfin, toutes ces petites choses, en fait, qui ne nous ont pas rassurés. Et du coup, nous, moi, je me suis dit, il y a un problème. Moi, je ferme tout à ça. Parce qu'elle voulait nous faire signer un papier sans vraiment nous expliquer réellement les choses. Elle m'a fait écrire un papier. Elle voulait que j'écrive et après que je signe. Et après, j'ai dit non, je suis désolé, je ne peux pas signer. Et là, je me suis dit, je ne fais rentrer plus personne à la maison, je ne signe plus rien, c'est terminé, je ne veux plus personne à la maison, c'est fini.
Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, elle a cette personne, en fin de compte, cette professionnelle, nous a parlé d'un dispositif qui était connu par un dispositif qui était mis en place.
L'appui parental.
L'appui parental, merci fortement. Donc elle nous a demandé juste d'écrire un courrier type et de le signer nous-mêmes.
Un contrat, oui.
Voilà, totalement. Sauf que moi, avant de signer, je mets des exemples sur Internet et je tombe sur la possibilité qu'un placement peut se faire. Et du coup, là, un peu paniquée, je dis, écoute, on ne signe pas, on la regarde, et puis elle nous dit, cette jeune femme nous dit, non, ça n'a strictement rien à voir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on n'a plus confiance, parce qu'en fait, il y avait la péricultrice qui était de l'autre côté, et qui nous disait, c'est vrai que dans notre métier aussi, on peut arriver à une finalité en soi, mais parce qu'en fait, elle a dû avoir l'information comme quoi j'en prends un traitement. Et ça, c'est normal, vous envoyez une information pour que tous les professionnels travaillent. Sauf qu'il y a des personnes qui pensent que la psychiatrie est quelque chose de gravissime.
Cette expérience, elle est venue détricoter la confiance que vous aviez construite avec les autres professionnels.
Totalement. Ouais, ça, par contre, ça a été très très dur.
Ce qui a fait paniquer un peu, je pense, Madame Toubin, du coup.
D'accord.
Donc, il y a un peu.
Ça a déconstruit.
Ça a déconstruit tout ce qui avait été tissé.
Vous vous rendez compte, des mois et des mois de travail mis en.
Une personne.
Mais pas. parce que, encore une fois, c'est un manque d'information, de formation.
Votre environnement a aussi dit non, non, mais surtout ne faites plus confiance, quoi. Votre environnement a paniqué, c'est-à-dire vous êtes posé des questions et l'environnement a été est parti dans votre mouvement de panique. Vous avez une histoire qui a certainement développé chez vous une sensibilité à l'autre, que vous percevez des choses au niveau infraverbal que nous, on ne perçoit même pas. Et on est un peu pressurisé par le temps, on a l'impression qu'on a des outils qui nous aident. L'appui parental, on a beaucoup œuvré pour que ça se mette en place, parce que sinon, les professionnels de pays n'ont pas suffisamment de temps pour accompagner ces premiers mois. Mais ça, c'est comme si ça faisait l'effet inverse, quoi. Tout d'un coup, ça vous perdait le sens, mais du coup, perdait le sens avec tous ceux pour être là avant, alors que vous êtes ouvert pour accepter l'aide. C'est pas rien d'accepter l'aide quand on va devenir parent.
Est-ce qu'on peut la reprocher? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la finalité, c'est que ça peut claquer du jour au lendemain.
Ce qui est important pour nous, c'est qu'on entende l'effet que ça a chez vous, dans ce moment très sensible. Et que ce n'est pas simplement des consultations pédopsie, mais c'est tout le chemin. Presque c'est tout le chemin entre les consultations, tout le chemin entre les professionnels qui vont vous permettre de prendre confiance en vous, de prendre confiance dans les autres.
J'ai eu une équipe de choc au niveau de l'accouchement. On a passé si je peux me permettre de le dire, j'ai passé un bon moment. Un bel accouchement, un bon moment.
On a une équipe formidable pour l'accouchement. Des anges. Les 5 premières petites minutes, juste à l'accouchement, les 5 premières minutes, c'est de la magie.
C'est de la magie, oui.
C'est magique, c'est un magique. Moment. J'ai appelé ça une claque émotionnelle, positive. Une claque émotionnelle.
On s'est regardé tous les deux. Et...
On a du mal à comprendre ce qui se passe sur les 5 premières minutes. Très, très indescriptible.
Comment lui aussi peut intervenir en tant que parent à part entière? Parce que bon, c'est bien beau, hein, ça donne le biberon, mais ça donne pas que ça. Il y a aussi de l'amour, il y a aussi. C'est beaucoup de choses.
La communication, la tendresse.
Là, on va commencer par là. Vous allez venir, on va faire d'abord les pieds. On descend doucement. Je descends avec vous. Je pourrais lâcher, hein. En vrai, vous la tenez.
De toute façon, la tête ne plonge pas maintenant.
Non.
Je ne lâche pas la tête.
Venez, on descend. Vous pouvez aller. Oui. Venez avec moi.
C'est la pince, donc là.
Voilà. Vous vous concentrez sur sa petite tête. Alors, juste, il vous faudrait la mettre. Non, ne la sortez pas. Je veux redécaler. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes bien là, comme ça?
Oui.
On peut descendre?
Oui.
Vous allez lâcher cette main.
Je lâche. Suis là. Ouais. Ok.
Et vous descendez votre avant-bras avec elle dans l'eau. Vous voyez, il faut que tout ça, ça descende. Elle va avoir de l'eau jusqu'aux oreilles pour être bien. Vous vérifiez que son visage reste hors de l'eau, mais vous voyez, elle peut être immergée jusque là. Et là, vous bercez.
On a accouché, on le fait ensemble. Si oui. Même. Et c'est dommage parce que, ben voilà, encore.
Même si c'est dans votre corps à vous, votre histoire à vous qui se réveille un peu comme ça, bien sûr, votre histoire
sensorielle et tout.
Mais si vous construisez, voilà, et après, c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment être ensemble, comprendre, comme vous dites. Hein. D'ailleurs, dès que vous avez des éléments de compréhension, pour accepter l'aide. Sans éléments, c'est difficile.
Mais c'est un chamboulement émotionnel, je suis tombée amoureuse.
Super.
Un amour à maman. Vous
voyez comme elle est tranquille, comme elle est bien. Ça rappelle la vie fétale. Là, ça veut dire qu'elle était vraiment bien dans votre ventre.
Oui. C'est vrai?
Ah là, oui. Tout à fait.
J'ai ce petit trésor à prendre soin. Je me sens tellement minime par rapport à elle et je me sens voilà, enfin c'est
comme
ma reine, ouais, c'est ouais, totalement. Puis après, par contre, il y a aussi de la culpabilité, mais il y a quand même quelque chose qui est magnifique, c'est que chaque fois que j'ouvre les yeux, je suis maman.
Effectivement, parfois les images parlent mieux qu'un long discours. Et cet entretien est extrêmement touchant et très bien articulé aussi. Et j'ai été frappée par votre posture à côté de votre compagne. Vous étiez dans une posture très rassurante, très présente. Et donc, je crois que ça serait intéressant maintenant d'avoir aussi votre témoignage sur ce qui s'est passé.
Bonjour à tous. Alors, j'ai pas l'habitude des colloques, hein, veuillez m'excuser. Je sais pas si c'est sous forme de questions-réponses. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience vraiment formidable. J'ai vécu ça vraiment comme un chamboulement. Ça a été vraiment extraordinaire. Et tout cet accompagnement, en fait, m'a vraiment permis de voir comment on pouvait amener les choses. C'était vraiment, je ne sais pas trop comment dire plus, mais en tout cas, c'était vraiment top, vraiment, voilà.
Est-ce qu'il y a une question, peut-être, pour Ludovic, dans la salle ?
Comment va Yona ?
Alors, Yona, aujourd'hui, se porte très, très bien. Elle a un mois, a priori, là, maintenant, oui, ça y est, un mois. Et elle se porte très, très bien, et elle est en pleine forme. Et elle grandit, elle prend du poids. Ça n'a pas été évident au niveau de l'alimentation parce qu'il y a les histoires, vous savez, de coliques et que ça prend du temps en fait à mettre en place sur la digestion. Enfin, il y a tout un réglage à faire à ce niveau-là. Mais après, ça se passe plutôt bien et elle va super bien.
La maman
va très bien aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a été, on va dire, plutôt angoissée. De par aussi son parcours aussi, elle a eu un parcours pas simple, pas évident. Elle a plutôt avancé. Et bon, je pense un peu grâce à moi aussi. Je pense que c'est un ensemble, hein, c'est une équipe. Hein, de toute façon, c'est une triade, hein, c'est une équipe. Et du coup, le fait de l'avoir soutenue, ça a été, je pense, une force à tous les deux de pouvoir créer une vie de famille. En fait, on crée une vie de famille, c'est ça qui est formidable. Voilà.
Quelqu'un d'autre dans la salle ? Frédéric, tu as une question ?
Je suis directement concernée par la situation, étant la grand-mère de cette petite Yuna. La grand-mère totalement ravie. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que Madame Toubin fait allusion pendant l'entretien au fait que l'extérieur est un peu inquiet. C'est vrai qu'on n'avait pas, moi j'avais pas, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance toute ma carrière, donc je connais un peu le secteur, mais je n'avais pas compris tout ce qui tourne autour de la périnatalité, comment ça fonctionnait, et du coup toutes ces personnes qui venaient avec plus ou moins de professionnalisme lié sans doute à leur jeunesse dans le métier ou dans leur âge, je ne sais pas, et du coup qui pouvaient être inquiétants. C'est pour ça que je vous avais appelé, mais j'avais bien compris que quelque chose se mettait en place, mais j'ignorais, parce qu'on ne pouvait pas en avoir plus de précision, si c'était lié au niveau d'angoisse de Leïla, que je ne connaissais pas tant que ça avant la grossesse, et ou si c'était lié à d'autres choses que j'ignorais. Donc j'ai compris qu'elle a un parcours très particulier et que je pense que de fait elle se crée une nouvelle famille et qu'on va être là pour l'entourer au mieux, et elle profite de tout ce qui lui est proposé, ça c'est une certitude.
Et Rosemary, je voulais vous demander, comment est-ce que vous êtes allé chercher Ludovic ? Comment est-ce que vous avez fait pour l'intégrer dans votre travail de soutien ?
Chaque fois que les couples nous sont adressés, la première fois, on laisse venir la maman seule. On n'est pas du tout dans une demande. Donc, on accueille. Donc, c'est les sages-femmes, les obstétriciens, soit après l'entretien précoce prénatal où ils ont pu repérer des difficultés, soit après une échographie, soit après un accueil aux urgences. En tout cas, il y a une sémiologie un petit peu de ne pas voir, mais vraiment prendre en compte ces micro-signaux qui ne sont pas très graves à ce moment-là, mais qui sont des signes d'alerte. Vous savez, comme dans la voiture, quand il y a un petit truc qui clignote, là, ben, on se dit on peut faire encore 50 km, et puis mais là, on ne peut pas faire 50 km, parce qu'on sait que si on ne le saisit pas à ce moment-là, il réapparaîtra peut-être pas du tout, jusqu'au peut-être aux 3 ans de l'enfant. En tout cas, quand vous, professionnel, vous serez en difficulté. Donc c'est vraiment une sorte d'urgence. Comment on va mesurer une longueur de fémur, comment on va regarder un peu si le bébé se développe bien, à cette occasion-là, d'aller faire une échographie environnementale, c'est-à-dire avec les parents, pas leur demander si la grossesse est désirée, mais leur demander dans quel contexte arrive cette grossesse. Quelle est votre première émotion quand vous l'avez découverte ? À qui vous en avez parlé en premier ? Et ça, c'est facile à faire quand les gens ils viennent et qu'ils ont envie de parler d'eux. sur une maman qui est extrêmement inquiète, il faut vraiment que ce soit l'échographiste qui pose sa sonde, qui dise un petit peu, souligne ce qu'il a pu voir, perçu de l'intensité émotionnelle, et demande qui est autour de cette maman, avec qui ils peuvent peut-être parler de cette angoisse, pour aller explorer un peu d'où vient cette angoisse. Vraiment, la médicalisation de la naissance, c'est des situations où on attend beaucoup. Est-ce que le bébé est mal formé? Est-ce que je vais y accoucher avant? Donc, il y a vraiment de l'émotion, je vais dire entre guillemets, naturelle. Et donc là, on peut y aller. Ce n'est pas dangereux de demander aux parents comment ils gèrent leurs angoisses, sur qui ils peuvent s'appuyer, et de découvrir qu'il y a des gros trous dans l'environnement, et de se dire là, ces trous, il ne faut pas qu'ils restent quand le bébé va arriver. Et ce n'est pas la peine d'attendre les effets des trous et que ces enfants arrivent en pédopsychiatrie encore très tard. Si on a loupé le coche là, les enfants, ils arrivent avec des troubles très organisés qui mettent beaucoup à mal nos institutions en pédopsychiatrie. Donc on va vraiment, c'est vraiment une prévention, une course contre la montre. Et nous, on est très réactifs en tant que pédopsychiatre pour accueillir cette maman et très vite lui dire, la prochaine fois, ce que serait bien que votre compagnon vienne avec vous et leur donner les ingrédients. Et cette consultation posturage, pas pour repérer et faire un signe de toute vulnérabilité, mais qu'on vous parle à vous de comment un bébé va s'habituer dans sa vie, de quoi il a besoin. Parler de la niche sensorielle du bébé, parler de la niche sensorielle des parents, parler de ce quatrième trimestre de grossesse. Voilà. Une fois qu'on parle de ça à la maman, même si elle est au fond du gouffre au niveau de l'angoisse, même si elle prend 15 000 toxiques, même si elle est hyper culpabilisée, elle va trouver avec son compagnon qu'elle connaît bien, la façon pour qu'il lui dise pas non pour venir. Et je peux vous dire que moi, j'ai à peu près 95% des coparents en consultation. Quand ils arrivent, ils ne sont pas du tout à l'aise. Quand ils repartent, ils disent « Ah, mais j'ai failli rater ça ». Et quand on montre un petit peu tous ces posturages, ces vidéos, on leur montre pas pour qu'ils apprennent. On leur montre vraiment pour parler ce que nous, on sait un peu du développement du bébé, pour pas qu'il parte en hyperextension, pour qu'il ait moins de coliques, pour qu'il fasse ses nuits plus facilement, de tout ce que l'autonomie nous a aussi amené dans la connaissance, les soins de développement. Moi, je leur parle beaucoup des grands prématurés. Je leur parle pas de leur nouveau-né à terme avec les médicaments, je leur parle de la capacité à un bébé de réparer son cerveau, qu'on n'a plus adulte. Il n'y a que les bébés qui ont ça, de par tout ce qu'on va mettre autour. Voilà. Mais il faut qu'il y ait du monde, il faut que l'environnement marche avec nous. Si la génération d'avant dit, ben non, il ne faut pas le porter, il va s'habituer au bras, maintenant, qu'est-ce qu'on t'a dit, et puis tout ça. Donc il faut, on emmène avec nous. C'est des consultations qui sont longues. Et alors que des papas ne voulaient surtout pas parler de comment ils avaient grandi, tout ça, je suis étonnée des confidences des pères qui rallongent beaucoup les consultations parce que tout d'un coup, ça fait sens pour eux de parler de la niche sensorielle de leur père quand ils étaient bébés. Vous voyez ? Et donc ça, c'est quand même... Alors qu'on ne leur pose aucune question. Je pose aucune question. Je leur demande juste s'ils savent s'ils sont nés en siège ou en céphalique. Et si leur mère leur a parlé des conditions de naissance et combien de temps durait le travail. Des choses très pragmatiques. Je ne vais jamais dans l'émotionnel. Et par contre, juste dans ce partage-là, c'est eux qui nous y emmènent. Et des fois, je suis obligée de refaire une consultation 3 jours après parce que je ne peux pas les laisser à nu de tout ça et appeler un psychiatre adulte pour qu'il voit le papa et appeler un papa qui, tout d'un coup, ne voulait pas du tout aller dans le centre d'addictologie parce que ça prend du temps, il faut 2 mois d'attente. Il a raté 15 rendez-vous, ben là, il faut que l'addictologue il le prenne 2 jours après alors que, franchement, ce n'est pas celui-là qui a envie de prendre, hein, il rate les rendez-vous. Donc, c'est tout ce travail. Il faut vraiment, c'est pour ça que je vous avais fait une petite métaphore sur ce travail ensemble, comme c'est la Coupe du Monde de rugby, s'il faut s'entraîner à être en équipe et vraiment, il y a des ressorts, il y a des règles de ce travail en réseau, voilà, et si on déroge les règles, on perd les parents. Le cafouillage là dont vous avez entendu parler, eh bien, si personne ne peut le reprendre, si moi je dis de toute façon elle est nulle cette sage-femme du PMI, tout ça, non. Il s'est passé là, l'inquiétude des professionnels a été telle à ce moment-là que du coup, eux, ils ne savaient pas trop trouver leur marque pour inviter les parents à accepter l'aide. Et nous, c'est vraiment des poupées gigognes. Françoise a souvent parlé de ces poupées gigognes qui vont vraiment permettre que les parents lâchent leur mécanisme de défense et découvrent qu'être dépendant à l'autre, c'est la santé psychique. Alors qu'ils se sont construits, leur carte mémoire, c'est tout l'inverse. Je suis trop hard.
Non, ce que tu dis, Rosemary, et ce que vous disiez, madame, me fait penser à la réflexion du psychologue du centre parental de Lachar, enfin, le directeur est là, noophiliste, qui disait finalement il faut passer de l'obligation du signalement à l'obligation de l'aide. Parce que signaler, si après on n'apporte pas une aide, c'est parfois pire que... Voilà.
Vous savez, pour les grands prématurés qui naissent et qui font 500 grammes, les pédiatres, ils nous ont appris du CAMS, qui viennent dans le service de néonate et qui disent à ses parents, dont le bébé a été hospitalisé plusieurs semaines, plusieurs mois, le bébé a fait plusieurs arrêts cardiaques, ils ont été là éprouvés par des émotions sur le devenir du bébé, sur les séquelles. Alors, vous savez, là, si on commence quelque chose, c'est pas quelques semaines. Nous, c'est un contrat de 2 ans avec vous. C'est pour ça que je viens vous voir. Et là, les blouses blanches, c'est pendant 2 ans que vous allez les voir. Les psychomotes, les orthophonistes, travailler les émotions de vous, parents, autour de ce bébé qui est plus vulnérable, qui est plus en hyperextension, qui va plus créer, on a parlé ce matin, du burn-out. Voilà. Et donc, et que si vous ne nous lâchez pas, nous, on peut vous dire que vraiment, la réanimation va être opératoire. Et on a vu des grands prémas avec vraiment des avenirs incroyables, alors qu'ils avaient vraiment des dégâts cérébraux. Ils avaient saigné dans les 4 ventricules, ils étaient... Voilà. On avait des fois discuté de arrêt de vie par arrêt de vie, et sortir de réa, et mais c'est ceux qui avaient pu bénéficier de 2 ans de suivi sans interruption. Si c'est juste 1 semaine, 2 semaines, vous savez, les puères de PMI, elles vont 1 semaine, 2 semaines, finalement ça va, vous me rappelez si besoin, non, c'est pas comme ça. Moi, les parents que je vois là, Leïla, je lui ai dit là, pendant 2 ans, c'est pour ça qu'on a mis en place cet appui parental. Et souvent, les réseaux d'entraide parentale et les centres parentaux, là où il y a quelque chose vraiment à penser, c'est que quand on commence quelque chose, nous, on ne peut pas vous dire s'il n'y a pas un minimum, on ne peut pas réparer une histoire de 30 ans, 40 ans chaotique en 3 semaines, en 6 mois. Ce n'est pas parce que le bébé se tient assis, qu'il fait du 4 pattes, que tout va bien. Toutes les phases d'autonomisation, toutes les phases qui vont venir rejouer des choses. Donc, je dis aux parents, voilà. Le contrat que vous avez avec moi, moi, ce que je sais, c'est que pendant 2 ans, vraiment, jusqu'à ce que cet enfant puisse avoir abordé les phases principales de son autonomisation, tout en restant dans la dépendance à l'autre, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir rejouer. Pour répondre à votre question du départ, quel parent je vais être? Vous avez entendu cette maman avec l'histoire chaotique que je traîne derrière moi et qui m'obsède. Allez. Elles font le test de grossesse, elles sont super contentes, elles disent, ben, je vais être le compagnon, ça. Puis les premières émotions qui viennent, c'est... C'est vraiment des gouffres, c'est des effondrements, hein, d'accord? Et c'est à leur insu, c'est tout d'un coup, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, parce qu'il essaie de se réaménager, d'aller chercher, dans ce qu'il a enregistré, tous ses soins de nursing, d'attention, de dépendance, et là, il y a du vide. Donc le vide, ben, ça crée de l'angoisse. Ouais, faut que je m'arrête. Pour continuer l'aventure, je vous ai mis dans le petit diaporama que vous pourrez récupérer les formations qu'on fait à Montpellier. On a écrit beaucoup de choses sur tout ça. Et puis ça, peut-être qu'on va pouvoir continuer à faire ces films. Et peut-être, si vous, vous êtes intéressé, on pourra vous envoyer le film si les parents sont d'accord. Voilà. Excusez-nous, on a pris le témoignage la semaine dernière. On a fini de monter le film cette nuit. Donc il y a encore des petites imperfections. Mais voilà, promis. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous deux. Si vous voulez prendre une brochure, y en a là. Donc, vous pouvez venir en chercher tout à l'heure. C'est la brochure, le catalogue 2024.
Et merci beaucoup à Ludovic.
Oui.
Il a quitté la nuit sensorielle. Parce que pour Leïla, ce n'était pas du tout facile de rester seule une nuit et une journée sans Ludovic à la maison. Mmh. Et donc, elle fait beaucoup d'efforts pour qu'il vienne nous aider à penser aujourd'hui. Merci. Mmh.